je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, les chères grandes oreilles du 102.9. Mais quelle joie tôt ce matin de venir à la radio avec mon vélo en pédalant. À vélo, on peut sniffer l'air frais, on a le temps de zioter, de respirer, de rire et de vivre. Ah, je la sens bien ce matin, cette émission. Il est content, le Muller. Et ce matin, j'ai fait une place incommensurable sur mon porte-bagages de mon vélo, de mon vieux Biclou, à un virtuose de la flûte traversière. Il enseigne dans la région son art prestigieux à l'école de musique. Il a fait le conservatoire de Paris et de Strasbourg. Et tout ce que je vous raconte, ce n'est pas pipé du tout. Bonjour Philippe Wigetz.
Bonjour André, ça va vraiment très bien. Voilà une belle façon de commencer l'émission, concerto de Mozart pour flûte et harpe, le concerto qui m'a donné envie de faire de la flûte réellement.
Mais c'est pour cette raison que je l'ai mis ce matin, je suis très heureux de partager ce doux moment avec toi et je crois qu'on va apprendre plein de choses aujourd'hui. Alors parle-moi un petit peu, comment ça gazouille sur ta planète musicale Philippe ?
Ben écoute, moi j'ai la chance de faire de la musique, de vivre dans des conditions absolument parfaites. Voilà, là on vient d'écouter un extrait du concerto de Mozart. Mozart qui, on le dit, n'aimait pas du tout la flûte. Je pense qu'il n'aimait pas les flûtistes plutôt. Mais oui, c'est vrai.
Ah ouais, à ce point-là. Mais... Écoute, Philippe, avant qu'on commence, parle-moi un petit peu de tes ancêtres. Ils vivaient où ? Parce qu'on peut le dire, tu as la peau chocolat.
Oui, tout
c'est,
à fait.
C'est pas vulgaire de dire ça.
Non, pas du tout. Alors là, c'est complètement assumé et c'est pour moi même une force. Mes origines sont une force. Alors, mon papa, qui est décédé, venait du Togo. Voilà, et je crois que ça m'a apporté beaucoup pour la compréhension de la musique, mais de façon... orale et naturelle. Et puis ma maman, elle vient de la Guadeloupe, aussi une île où la musique est très importante.
Voilà. Tu me parlais même d'un mot très violent, tu me parlais de négritude. C'est vachement dur ça, non ?
Eh bien oui, mais quand on dit un peu Aimé Césaire, hein, par exemple, hein, chantre de la négritude, eh ben, on s'aperçoit que c'est un mot en fait très positif et que en fait, c'est un mot qui met en avant notre force et nos origines. C'est ce qui fait qu'on tient toujours debout et qu'on a la volonté sans cesse d'avancer.
D'y aller, quoi.
Voilà, ce n'est pas un mot négatif.
De ne jamais reculer, quoi.
Exactement.
Et alors, tu me parles moins un petit peu de ton enfance. Tu as vécu où est-ce que tu as grandi ? Dans quel quartier ? À Strasbourg, je crois,
grandi. Oui, bah, moi, je suis un pur produit strasbourgeois. Hein. Je suis né à Strasbourg. J'ai été élevé pendant plusieurs années dans un quartier qu'on pense aujourd'hui difficile, qui est le Neuf.
Hein, quoi, t'as grandi au Neuf ?
Mais bien sûr.
Wow. Et, mais voilà. Là-bas, t'as dû te battre pour sortir de ce quartier. Hein.
Non, moi, les choses se font très naturellement. Hein. Je suis d'une époque où ben, y avait une grande valeur travail. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup travaillé. Puis au Neuf, eh ben, j'ai rencontré des gens. Il y avait une solidarité qui était très forte.
Tu habitais dans des immeubles, dans des HLM ?
J'habitais dans un immeuble HLM, voilà.
Raconte-moi un peu comment c'était. On va me demander à Thomas de lui mettre une petite musiquette, là, deux, pour voir un petit peu, pour lui raconter un petit peu son enfance. On va écouter cette jolie petite musiquette pendant que tu parles.
Alors, mon enfance, elle est très belle en fait, hein, entourée de beaucoup d'enfants, d'adultes responsables qui nous surveillaient, avec une maman, dans mon cas, très très forte.
Aimante,
très aimant. Et j'allais te dire que tout tourne autour de ça. De la bienveillance, voilà, avec une école où on a beaucoup appris, où on nous a donné des vraies valeurs, la valeur travail, qui est très importante pour moi, hein, l'exigence, et le tout dans la bienveillance.
Et Philippe, dis-moi, tes parents étaient musiciens pour que tu t'intéresses à ton instrument de musique ?
Mais absolument pas.
Bah comment c'est venu alors ?
Alors, mes parents n'étaient pas musiciens, mais à la maison, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de musique. encore aujourd'hui, hein, quand on se rencontre en famille, autour d'un bon repas, à la fin du repas, on chante toujours. Donc ça, le côté musique, il a toujours été présent
T'étais
dans ma
famille.
T'étais
bercé là dans la musique.
Oui, oui, ouais. Toujours. Ouais. Après, pourquoi la flûte, pourquoi la musique classique? C'est grâce à une prof dans un collège qui s'est dit « Ah, mais ce jeune, il a un certain talent. Ouais. » Et donc, elle m'a envoyé chez... quelqu'un qui a changé ma vie.
Hein. C'est génial. Mais attends, mais tu voulais, avant de me parler de changer ta vie, tu voulais pas devenir comme tout le monde, pompier, curé, médecin ou autre chose,
mais,
non ?
Mais je crois que j'aurais eu envie de tout faire, hein, même apprendre à dresser des animaux dans un cirque. Je crois que j'aurais pu, je pense que j'aurais absolument pu tout faire. En tous les cas, j'avais les capacités pour faire beaucoup de choses.
Mais... Tu avais avant toute chose une oreille musicale, tu avais la musique qui coulait dans tes veines, tu veux me dire ?
Mais j'en avais pas du tout conscience. Ça, pour moi, c'est très clair. J'en avais pas conscience. Je pense que je chantais déjà très juste. Je pense que j'avais, que je reconnaissais bien tout ce qui se passait, que je savais structurer. Mais en tous les cas, j'avais pas l'exigence de ce qu'est la musique et du travail qu'il y a derrière. Donc, en fait, c'est vraiment un hasard heureux que d'avoir fait de la musique. Par contre, il y a une certaine violence, même le jour où j'ai rencontré la musique, parce que en voyant une flûte, en entendant dans le son de la flûte, je savais immédiatement que la flûte serait ma vie.
Écoute, on va se reposer un tout petit peu les oreilles, on va écouter une musique que nous a demandé de mettre, c'est Thomas qui va le faire, la musique de Brel apparemment, tu adores.
Oui, parce que le message dans la quête, c'est le message de ma vie, en fait, atteindre l'inaccessible étoile.
On va l'écouter.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir. Personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même
bois.
Tu vas chanter.
Au bois.
C'est quoi l'instrument qu'on entend, là, qui domine?
Là, on entend le hautbois qui répond à Jacques Brel et... qui va amener cette phrase absolument extraordinaire.
Chante-la.
Pour atteindre l'inaccessible étoile. Et ça, c'est toute la quête d'une vie, et je crois que c'est la quête d'une vie pour tout un chacun, pour tout être humain. C'est réussir à se réaliser, à atteindre cette étoile.
L'inaccessible. Alors, parle-moi un petit peu aussi de cet instrument. Tu es devenu flûtiste, tu as une flûte traversière qui est juste là sur la côté de ton micro. Raconte-moi, il est comment ? Il est en plusieurs parties, je vois. Il est brillant, on dirait qu'il est en or, non, ton instrument ?
Oui, alors j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un instrument absolument magnifique, très professionnel.
Il brille, hein. tu le lustres ou quoi ?
Tout le temps. Alors là, je passe des heures à nettoyer mon instrument. Donc j'ai une flûte traversière, effectivement, en or. Voilà, la flûte traversière.
Parce qu'en or, le son est meilleur.
La densité du métal est très différente, hein, donc le son est différent. Pas forcément mieux, le son il est différent. Aujourd'hui, on trouve des flûtes en bois qui sonnent très différemment, des flûtes en argent. Tout ça, c'est des flûtes professionnelles, des flûtes en or. Évidemment, vu le budget d'un tel instrument, quand les élèves commencent, hein, ils commencent sur des instruments en maille-chore, hein, alliage, d'accord. Mais qui sonnent évidemment très, très bien.
Et en fait, tu as des petites clés, là. Je vois que tu as plusieurs petites clés.
Voilà. Donc, l'instrument...
Prends-le voir en main, ton instrument, si tu
donc,
veux bien.
Mon instrument, je disais, c'est une flûte traversière. Trois parties sur la flûte traversière. La tête, le corps, la patte. Sur le corps et la patte, on a un système de clés. Et alors, c'est très intéressant, ce système de clés, hein, qui a été créé vers 1870. Et pourquoi il est très intéressant ? Parce que c'est ce qui fait justement que mon instrument fait partie de la famille des vents. dans tous les vents, c'est-à-dire le hautbois, la clarinette, le
souffle.
Basson.
Il faut du souffle.
On va souffler, donc ça, c'est pour
tu
la famille des vents.
Tu peux faire un son, éventuellement. Tu peux faire un son.
Mais bien sûr, mais aussi, donc je termine, hein, ça fait partie de la famille des bois, parce qu'il y a des clés. Pas parce que la flûte est en bois, mais parce qu'il y a des clés. Je vous propose de, peut-être de faire quelques sons, alors.
Allez, vas-y, ouais, génial. En live.
En live. Hein. Alors.
Magnifique, c'est super beau, ouais.
Voilà, et c'est l'attrapeur d'oiseaux.
C'est
Mozart, mais
oui,
bien sûr.
C'est ça, effectivement. C'est voilà. Aussi, ça sert aussi à attraper les oiseaux
exactement.
À l'époque.
Oui.
Et puis, il y a même un monsieur qui est parti avec la flûte sortir les rats de la ville. Mais un conte de Grimm.
Un conte de Grimm en Allemagne, voilà.
Ouais. Où, à Lübeck, je crois, si je ne me trompe pas.
Il me semble, effectivement. Hein. Mais je crois qu'on a refusé de le payer à la fin et puis que les rats sont revenus. Hein. Voilà.
Donc, il faudrait que tu y retournes.
Exactement.
Et alors, dis-moi aussi, c'est un vieil instrument. Je sais que déjà il y a 35 000 ans, on avait trouvé dans des grottes quelque part des flûtes à base d'os de vautour.
À base d'os que les hommes perçaient et dans lesquels ils soufflaient. On dit que la flûte, c'est le plus vieil instrument, en fait. Hein. Je pense que,
du monde
Oui. Ouais. On a aussi les percussions, je pense, qui sont vieilles. Mais des flûtes, donc je te racontais dans quel matériel elles pouvaient être faites. Elles peuvent être faites en cristal aussi. Et donc, on a retrouvé des anciennes flûtes, effectivement, taillées dans du bois, mais dans des os souvent des tibias, d'animaux. Et on peut en voir hein, dans les musées à Bâle. Je sais qu'il y a un musée des instruments. Et ben on peut trouver tout ce type de flûte. Hein. Voilà.
Mais tu penses que le son est différent dans un fémur ou dans un os de vautour?
Ouais, c'est des flûtes primitives. Hein. on va pas jouer un concerto avec.
Tu pourrais pas faire aller au filard avec ça.
On peut pas faire. Mais on comprend bien l'esprit de notre instrument quand on entend ces morceaux de bois ou ces morceaux d'os. Hein. Voilà.
Et en fait, dis-moi le. Tu as choisi cet instrument parce que c'est un instrument plus facile que la batterie ou un autre instrument du philharmonique. C'est un instrument qui n'est pas bruyant, qui est plutôt doux. Est-ce qu'on peut dire que c'est un instrument féminin?
Alors, pas bruyant, je peux t'assurer que mes voisins, durant toute ma jeunesse, ont trouvé ça très bruyant. Hein.
Ah oui, quand même.
Ah oui. Donc, il n'y a pas d'instrument pas bruyant. Hein, ça,
mais,
très
mais
clairement.
Par rapport à la batterie, une batterie, une caisse qui... Là, c'est quand même un instrument doux, non?
André, je peux t'assurer que deux heures de gamme dans l'aigu, la batterie. Voilà, hein, ça c'est clair. Pour moi, donc vraiment, c'est pas c'est un instrument qui sonne hein. Et du reste, tu regardes, tu vas dans n'importe quel orchestre, tu vas avoir 40 cordes et deux flûtes, et ces deux flûtes vont passer très clairement au-dessus de tout le monde. Alors, il y a tous les vents, évidemment, hein, mais la flûte, tu l'entends très bien. Je fais de la flûte, mais je fais du piccolo aussi. Le piccolo, c'est l'un des instruments les plus petits de l'orchestre.
C'est quoi le piccolo? C'est quoi?
C'est la même chose qu'une flûte traversière, mais en tout petit.
C'est la même chose que j'ai dans la bouche, regarde.
Alors, toi, tu as une flûte qui ressemble plus à une flûte à abeille.
C'est,
hein, mais
c'est la flûte de mon petit-fils que je t'ai ramené.
Imagine seulement si tu avais ça pendant deux heures.
Ah ouais, j'imagine.
Je pense que ça serait pas forcément simple
pour
les oreilles.
Fais-nous voir un joli son doux avec ton instrument.
Un joli son...
Quelque chose de joli ou alors voilà, fais-nous quelque chose de beau. Ah, c'est magnifique.
Voilà.
Ouais. Et alors, un truc bruyant, peut-être
Symphonie de Brahms.
Ah, c'est beau. Ouais,
voilà.
C'est très, très beau. Alors, tout à l'heure, je te demandais, est-ce que c'est plutôt un instrument féminin la flûte traversière. Parce que quand on voit au filard, on voit beaucoup de femmes qui jouent.
Mais c'est très intéressant. Est-ce que la cuisine, c'est plutôt un truc de femme?
Ah non, non, non.
Pour moi, c'est exactement la même
parlons-en,
chose.
Parlons-en, parce que cuisiner, tu adores cuisiner.
Mais bien sûr.
Tu adores faire la cuisine.
Donc, je crois qu'il n'y a pas d'instrument genré. Hein, y a,
ne t'énerve pas, hein, pardon, ne me frappe pas. Hein.
Mais non, c'est marrant ce que tu demandes là, parce qu'en fait, je l'ai entendu tout le temps. On me disait, on se moquait, on me disait, tu fais de la flûte. Bon, la flûte, c'est un instrument. Moi, c'est l'instrument qui me touche. J'ai des amis filles qui font de la trompette. Et voilà, c'est extraordinaire. Est-ce que le foot, c'est fait que pour les hommes? Est-ce que le patinage artistique, c'est fait que pour les femmes? J'ai une élève qui fait du ballet nautique à Strasbourg. Ben, y a des garçons. Donc, on ne genre pas les instruments. Voilà. Je crois que par contre, la flûte demande une certaine délicatesse, une certaine élégance. Alors, c'est peut-être des choses qu'on attribue aux femmes, mais je pense pas être particulièrement brute dans ce que je fais ou dans mon jeu.
Non, je ne veux pas te vexer, mais on a tous un côté féminin, moi aussi. Mais
bien
hein.
sûr.
On a tous, et heureusement qu'on
et
a
heureusement,
ça.
Bien sûr.
Heureusement qu'on est comme ça. Et alors, je voulais aussi te demander, cet instrument, je vois que tu en prends soin, il brille
oui,
de toute,
oui.
toute sa splendeur. Comment tu le nettoies? Avec une brosse à dents?
dans ma jeunesse, je pense que je passais plus de temps à nettoyer mes instruments qu'à en jouer, hein, tu vois. Mon instrument... quand j'en joue plusieurs heures par jour, j'ai un écouvillon que je passe à l'intérieur.
C'est comme pour nettoyer un biberon.
C'est exactement le même principe.
Chose, ouais.
Puis après, je passe l'extérieur. Voilà. J'avoue, je passe aussi beaucoup de temps quand je ne joue pas à le regarder parce que je trouve qu'il est très beau.
C'est magnifique, c'est vrai. Alors après, j'avais envie de. Je t'ai ramené une petite partition.
Eh oui.
Regarde-moi, joue-moi voir un petit morceau. Mais tu sais pas ce que c'est, hein.
Ouais.
Mais moi, ça me rappelle un souvenir d'enfance. C'est justement avant de me brosser les dents, j'écoutais cela à la télévision. Alors vas-y voir.
Alors je vois que tu m'as apporté la partition, je la mets devant
voilà,
moi.
Voilà, mets-la devant toi et voilà. Tu vas deviner ce que c'est. Je crois que Thomas, il sait ce que c'est. Hein.
Alors, ok. Non, mais André, j'étais absolument fan de ça quand j'étais enfant. Je suis quand même 50 ans passé, c'est complètement ma génération. Voilà.
Mais tu sais pourquoi j'adore ça? Parce que ça me rappelle quand j'étais gamin, bien sûr, j'étais gamin, bien avant toi. Et ma maman me disait, maintenant, tu te laves les dents et tu vas dîner et tu vas au lit. Et j'écoutais Nounours qui descendait de son échelle. Boum, 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 boum.
C'est très drôle.
Et un jour, j'étais à la cathédrale, j'ai vu un flûtiste jouer justement. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me jouer Nounours? Comme ça, je te donne une belle pièce. Et il m'a joué devant la cathédrale, ce que tu as joué à l'instant. Et c'est quelque chose que j'adore.
Mais c'est très drôle parce que, enfant, dans mon immeuble, on était les premiers à avoir la télé en couleur.
Waouh!
Et c'est. On-off,
hein,
dans les années 78-80. Et c'est l'une des premières choses que j'ai vu en couleur, en fait. Donc, je trouve ça très touchant de voir ça. Et évidemment, je connais... j'adore.
Tu aimes beaucoup.
Ouais.
Bah écoute, est-ce qu'avec cet instrument, est-ce qu'on peut jouer toute la musique, du jazz, du rock, on peut tout jouer avec une flûte traversière?
Mais baroque à rock.
Baroque, ouais.
Baroque au rock.
Du baroque au rock, ouais.
Évidemment. Tiens, d'ailleurs, c'est très intéressant. Récemment... J'ai entendu un morceau à la télé qui reprenait un extrait de la partita pour flûte de Jean-Sébastien Bach et qui était samplé, c'est-à-dire dans une espèce de boucle. Et voilà, et ils avaient mis une espèce de musique indienne dessus. Si tu veux, je peux te faire juste le début.
Ah ben vas-y, fais-nous, hein, mais fais-nous un bon moment là. Joue-nous quelque chose de sympa. Ouais.
Alors,
vas-y.
Donc, dans la partita de Jean-Sébastien Bach, le premier mouvement... l'allemande, je te joue la première phrase. Mmh. Voilà, et cette phrase va être reprise plusieurs fois dans ce sample, et ça m'a beaucoup fait rire parce que j'entendais les gens chanter ça, et puis je me disais, mais ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils chantent du Jean-Sébastien Bach et qu'ils chantent un des tubes de la flûte en plus.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, tu as aussi celui-là qu'on a tous connu parce qu'il était utilisé dans nos sonneries portables.
Ah, vas-y, va. Alors.
Donc, la badinerie de la suite en site Jean-Sébastien Bach. Hein.
J'ai voilà. l'impression que mon téléphone sonne, tu as raison. C'est vraiment
mais
mignon.
Oui.
Et alors, dis-moi comment ça se passe avec le Kapellmeister quand tu joues dans les orchestres, le fila. Comment ça se passe? Comment tu, quand il rythme, quand il bat la mesure, quel est le contact que tu as avec lui et avec les autres musiciens?
Alors, moi, j'ai la chance encore actuellement, depuis presque 20 ans, de travailler dans un orchestre en Allemagne qui est l'orchestre de chambre de Kehl. Les chefs tournent beaucoup. Hein. On fonctionne avec des chefs invités. Voilà. Ou je fais d'autres choses. Hein. Je travaille avec Rémi Studer aussi qui travaille ici. Je fais de l'opérette. Voilà. Chaque chef a des exigences différentes, en fait. Hein. Ne dirige pas de la même façon. Il y en a qui marquent la pulsation, il y en a qui marquent que les intentions musicales. Et c'est à nous...
Mais toi qui connais la musique, est-ce que tu as besoin de voir quand il bat la mesure? Est-ce que c'est très important, ça? Bah, ou alors c'est un peu du Mickey, ça?
Alors, non, c'est vraiment... le rôle du chef d'orchestre, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que... tout ce qui ne se voit pas, en fait, est essentiel chez le chef. C'est-à-dire que, évidemment, il va donner la mesure, il va donner les départs, mais j'allais dire, à notre niveau, on n'en a pas besoin. Donc, on pourrait imaginer qu'on fasse sans lui. Sauf que le chef d'orchestre va diriger les intentions musicales qu'il va construire. C'est tout un discours qu'un chef construit. Tu peux jouer une pièce, la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak avec un chef, tu changes de chef, tu n'entends pas du tout la même chose parce que le chef aura une autre traduction de la symphonie, un autre ressenti de la symphonie, une autre personnalité.
Est-ce qu'un chef sait jouer de tous les instruments du filard? Est-ce qu'il connaît tous les instruments? Est-ce qu'il pourrait les jouer?
Non. Non, ça,
bah alors,
ça
il sert
je
à quoi
pas. Mais il est
justement ce que
j'allais te dire, il est au-delà de ça, il est plus dans la création, je pense. C'est-à-dire que il a une certaine lecture et une intelligence du texte, une vision globale du texte qui fait que en fait, il arrive à réunir justement tous les instruments qu'il connaît, hein. Qu'il joue pas forcément, mais qu'il connaît. Il a une écoute harmonique, c'est-à-dire il entend vraiment tout. Et il a une lecture historique des pièces qui fait qu'il arrive à construire une version.
Et alors, ce que je voulais te demander, c'est très intéressant quand tu me dis là, parce que je vous avais dit qu'on allait apprendre plein de choses. Le Mozart, par exemple, Mahler, tous ces gens-là qui ont fait de la musique il y a très longtemps, elle est toujours actuelle, est toujours à la mode, elle est toujours au hit-parade de la musique classique. Pour quelle raison il n'y a pas un autre Mozart qui surgit un jour?
Alors, il faut se dire que le temps a fait son œuvre. Hein. Donc, les compositeurs plus moyens, plus médiocres, qui même avaient du succès à leur époque, n'ont pas traversé les temps. Après, les gens que tu cites, Mozart, Mahler, Bruckner, Bach et tous ces compositeurs qu'on connaît encore aujourd'hui, ce sont des génies créatifs. Voilà. Je crois que dans 50 ans, on parlera toujours de Pelé.
Ouais.
Voilà, c'est des gens qui apportent à la fois quelque chose au football, mais un Mozart, il a inventé un style. Un Jean-Sébastien Bach, c'est le style baroque, ça répond à des règles, mais surtout, il a créé le style. Voilà.
Mais quel chef d'orchestre, quel musicien de musique classique qui est aujourd'hui à la mode? C'est lequel, par exemple? Tu penses à qui?
Alors, si moi, je dois en citer un à la flûte, c'est évidemment Emmanuel Pahud, qui est actuellement le plus grand de tous les flûtistes. Moi, je me souviens, je parlais tout à l'heure de la suite en si Jean-Sébastien Bach, que j'ai joué, mais vraiment de multiples fois. Hein. et que je connais et que j'ai entendu, je peux pas te dire combien de fois tellement je l'ai entendu. Eh ben, je me souviens avoir entendu Emmanuel Pahu jouer cette suite de Jean-Sébastien Bach à Colmar. Il a joué la suite, mais du début à la fin sans s'arrêter. Wow. Et j'ai redécouvert cette pièce que je joue depuis plus de 20 ans.
Tu peux nous jouer un petit morceau là?
Mais oui, alors, c'est celle que je jouais tout à l'heure, la badinerie. Ben là, je vais vous faire le menuet.
Ouais, voilà. C'est extraordinaire.
Oui, oui, c'est vraiment de la musique splendide.
Et, voilà. et quand tu joues, par exemple, tu fais des concerts également. Tu m'avais parlé de des concerts, t'en fais un peu partout. Alors, en Alsace, voilà, un peu plus loin, en Allemagne.
J'ai la chance, hein, encore une fois, à côté de mon activité d'enseignement.
Enseignes où? Raconte-nous.
Alors,
tu enseignes où?
J'enseigne dans différentes écoles de musique sur Strasbourg, hein, au Centre d'animation musicale de Strasbourg, un conservatoire intercommunal du Korersberg, voilà. Vous avez d'ailleurs reçu une de mes collègues émérites que j'adore, hein, Caroline.
Ah, la pianiste malvoyante, voilà. Qu'est-ce qu'elle était chouette.
Voilà, une vraie musicienne.
Ah, elle est géniale.
Une vraie musicienne.
Elle a des petites mains, elle me disait la difficulté qu'elle avait avec ses petites mains, mais quelle virtuose aussi.
Oui, ouais. Oui, et puis beaucoup de musique et d'humanité chez Caroline.
Exactement, mais en fait, ton instrument est toujours à la mode. Les jeunes veulent apprendre cet instrument.
Bah, écoute, j'ai des classes qui sont absolument pleines.
Mais ça veut dire combien pleines? 2 élèves, 3 élèves?
Oh non, je dois être à 70 élèves au
ah
moins.
Bon
oui,
wow.
Oui, oui. Et puis chaque année, j'en refuse parce que je veux pouvoir m'occuper des gens qui sont là, en fait. Voilà. Et que ben, faire de la musique, c'est évidemment une relation prof-élève, mais c'est aussi une relation humaine à laquelle je porte beaucoup d'attention parce que c'est pour avoir un bon rapport à la musique, eh ben, il faut que tu aies un bon rapport avec la personne qui est en face de toi. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Voilà. Dans mon activité de musicien, j'ai la chance d'avoir joué dans des grands orchestres. Hein. J'ai été appelé à jouer à l'Orchestre de Strasbourg, à l'Orchestre de Mulhouse, à l'Opéra de Studio de Genève. Y a toute une partie aussi qui m'intéresse beaucoup, qui est celle de la musique de chambre. Donc là, si je fais juste ce qui va arriver là, dans les prochains temps, je vais jouer avec harpe la sonate de Debussy, je vais faire plusieurs concertos avec orchestre, voilà. Et puis, il y a toute une partie que j'aime beaucoup, qui est la direction artistique de festival, puisque...
Ça veut dire quoi, une direction artistique? T'es directeur là?
Alors, en fait, je dirige un festival artistiquement, je choisis les musiciens qui viennent, je fais la programmation, voilà. Le festival est dans les Deux-Sèvres, il s'appelle Les Murons des Oreilles, voilà. Il met en valeur le patrimoine du coin, les châteaux, les poulaillers, les églises.
Ah ouais.
Et on fait jouer des musiciens dans ce cadre-là. Voilà. C'est un travail que je trouve très intéressant. Et de plus en plus, d'ailleurs, la direction m'intéresse. Et aussi la direction d'orchestre m'intéresse. Voilà.
Ça veut dire quoi, diriger l'orchestre?
Diriger l'orchestre. Pas des gros orchestres hein, comme l'orchestre de Strasbourg.
Ouais, ouais.
Voilà. Des ensembles beaucoup plus petits en musique de chambre, ça m'intéresse beaucoup.
Tu ne mets pas que des flûtistes, tu mets des cordes, tu mets...
Absolument tout. Absolument tout, voilà.
Beaucoup de personnes.
Beaucoup de personnes pour des œuvres, pas les grosses œuvres du répertoire, mais parfois des œuvres un peu plus inconnues, ressorties, voilà, me semble intéressant.
Alors Philippe, avant de terminer, joue-nous quelque chose de sympathique encore avant de se quitter. Qu'est-ce que tu pourrais
quelque
jouer?
Quelque chose de sympathique.
De charmant, comme tu sais faire. Vas-y.
Alors, je te propose du piano. Zola,
ah, okay.
Hein, voilà, Oblivion.
Ok.
Thank you.
Ben merci beaucoup Philippe, c'est un super moment qu'on a partagé ensemble.
Plaisir,
c'était
hein.
vraiment génial.
Mais on quel a passé... plaisir.
Tu
André.
Nous as appris tellement de choses, tellement de choses, et tu parles facilement, tu es très agréable. Je pense que tu dois être un très bon professeur. Je pense que tes élèves doivent t'adorer, vraiment. Merci de cette
belle,
de ce beau moment.
Je les aime aussi beaucoup.
Merci
voilà.
beaucoup. On peut mettre le générique de fin si on a le temps, Thomas.
Voilà. C'est fini. On attend ça, c'est...